Guy de Maupassant, l'orphelin. Mademoiselle Source avait adopté ce garçon autrefois dans des circonstances bien tristes. Elle était âgée alors de 36 ans et sa difformité, elle avait glissé des genoux de sa bonne dans la cheminée, étant enfant et toute sa figure brûlée horriblement était demeurée à faux avoir. Sa difformité l'avait décidée à ne se point marier, car elle ne voulait pas être épousée et pour son argent. Une voisine, devenue veuve étant grosse, mourut en couche, ne laissant pas un sou. Mademoiselle Source recueillit le nouveau-né, le mit en nourrice, l'éleva, l'envoya en pension, puis le reprit à l'âge de 14 ans, afin d'avoir dans sa maison vide quelqu'un qui l'aimât, qui prit soin d'elle et qui lui rendit douce la vieillesse. Elle habitait une petite propriété de campagne à 4 lieues de Rennes, et elle vivait maintenant sans servante. La dépense ayant augmenté de plus du double depuis l'arrivée de cet orphelin, ses 3 000 francs de rente revenus ne pouvaient plus suffire à nourrir 3 personnes. Alors elle faisait elle-même le ménage et la cuisine, et elle envoyait aux commissions le petit, qui s'occupait encore à cultiver le jardin. Il était doux, timide, silencieux et caressant. Elle éprouvait une joie profonde, une joie nouvelle à être embrassée par lui, sans qu'il parût surpris ou effrayé de sa laideur. Il l'appelait tante et la traitait comme une mère. Le soir, ils s'asseyaient tous deux au coin du feu, et elle lui préparait des douceurs. Elle faisait chauffer du vin et grillait une tranche de pain, et c'était une petite dînette charmante avant d'aller se mettre au lit. Souvent, elle le prenait sur ses genoux et le couvrait de caresses en lui murmurant des mots tendrement passionnés. Elle l'appelait « ma petite fleur, mon chérubin, mon ange adoré, mon divin bijou ». Il se laissait faire doucement, cachant sa tête sur l'épaule de la vieille fille. Bien qu'il eût maintenant près de 15 ans, il était demeuré frêle et petit, avec un air un peu maladif. Quelquefois, Mademoiselle Source l'emmenait à la ville, voir 2 parentes qu'elle avait, cousines éloignées, mariées dans un faubourg, sa seule famille. Les 2 femmes lui en voulaient toujours d'avoir adopté cet enfant à cause de l'héritage, mais elle la recevait quand même avec empressement, espérant encore leur part, ou un tiers sans doute, si on divisait également sa succession. Elle était heureuse, très heureuse, à toute heure occupée de son enfant. Elle lui acheta des livres pour lui orner l'esprit, et il se mit à lire passionnément. Le soir, maintenant, il ne montait plus sur ses genoux pour la câliner comme autrefois, mais il s'asseyait vivement sur sa petite chaise au coin de la cheminée et il ouvrait un volume. La lampe posée au bord de la tablette au-dessus de sa tête éclairait ses cheveux bouclés et un morceau de la chair du front. Il ne remuait plus, il ne relevait pas les yeux, il ne faisait pas un geste, il lisait, entré disparu tout entier dans l'aventure du livre. Elle, assise en face de lui, le contemplait d'un regard ardent et fixe, étonné de son attention, jalouse, prête à pleurer souvent. Elle lui disait par instant « Mais tu vas te fatiguer, mon trésor !» espérant qu'il relèverait la tête et viendra l'embrasser. Mais il ne lui répondait même pas, il n'avait pas entendu, il n'avait pas compris. Il ne savait rien d'autre chose que ce qu'il voyait dans les pages. Pendant 2 ans, il dévora des volumes en nombre incalculable. Son caractère changea. Plusieurs fois ensuite, il demanda à Mademoiselle Sourde de l'argent qu'elle lui donna. Comme il en fallait toujours davantage, elle finit par refuser, car elle avait de l'ordre et de l'énergie et elle savait être raisonnable quand il le fallait. À force de supplications, il obtint d'elle encore un soir une forte somme, mais comme il l'implorait de nouveau quelques jours plus tard, Elle se montra inflexible et elle ne céda plus en effet. Il parut en prendre son parti. Il redevint tranquille comme autrefois, aimant rester assis pendant des heures entières sans faire un mouvement, les yeux baissés et enfoncés en des songeries. Il ne parlait même plus avec Mademoiselle Source, répondant à peine à ce qu'elle lui disait par phrases courtes et précises. Il était gentil pour elle, cependant, et plein de soins, mais il ne l'embrassait plus jamais. Le soir, maintenant, quand il demeurait face à face des deux côtés de la cheminée, immobile et silencieux, il lui faisait peur quelquefois. Elle voulait le réveiller et dire quelque chose, n'importe quoi, pour sortir de ce silence effrayant comme les ténèbres d'un bois. Mais il ne paraissait plus l'entendre, et elle frémissait d'une terreur de pauvre femme faible quand elle lui avait parlé 5 ou 6 fois de suite, sans obtenir un mot. Mais qu'avait-il, que se passait-il en cette tête fermée? Quand elle était demeurée ainsi 2 ou 3 heures en face de lui, elle se sentait devenir folle, prête à fuir, à se sauver dans la campagne, pour éviter ce muet et éternel tête-à-tête, et aussi un danger vague qu'elle ne soupçonnait pas, mais qu'elle sentait. Elle pleurait souvent, toute seule. Mais qu'avait-il? Qu'elle témoignait un désir, il exécutait sans murmurer. Qu'elle eut besoin de quelque chose à la ville, il s'y rendait aussitôt. Elle n'avait pas à se plaindre de lui, non, certes. Cependant, une année encore s'écoula, et il lui sembla qu'une nouvelle modification était accomplie dans l'esprit mystérieux du jeune homme. Elle s'en aperçut, elle le sentit, elle le devina. Comment, n'importe, elle était sûre de ne s'être point trompée, mais elle n'aurait pu dire en quoi les pensées inconnues de cet étrange garçon avaient changé. Il lui semblait qu'il avait été jusque-là comme un homme hésitant qui aurait pris tout à coup une résolution. Cette idée lui vint un soir en rencontrant son regard, un regard fixe, singulier, qu'elle ne connaissait point. Alors il se mit à la contempler à tout moment. Elle avait envie de se cacher pour éviter cet œil froid planté sur elle. Pendant des soirs entiers, il la fixait, se détournant seulement quand elle disait à bout de force « Ne me regarde pas comme ça, mon enfant !» Alors il baissait la tête, mais dès qu'elle avait le dos tourné, elle sentait de nouveau son œil sur elle. Où qu'elle allât, il la poursuivait de son regard obstiné. Parfois, quand elle se promenait dans son petit jardin, elle l'apercevait tout à coup, blottie dans un massif, comme s'il se fût mis en embuscade. Ou bien, lorsqu'elle s'installait devant son logis à raccommoder des bas, et qu'il bêchait quelques carrés de légumes, il la guettait tout en travaillant d'une façon sournoise et continue. Elle avait beau lui demander « Mais qu'as-tu, mon petit? Depuis 3 ans, tu deviens tout différent. Je ne te reconnais pas. Dis-moi ce que tu as, ce que tu penses, je t'en supplie. » Et il prononçait invariablement, d'un ton calme et fatigué, « Mais j'ai rien, ma tante, j'ai rien. » Et quand elle insistait, le suppliant, « Mais mon enfant, mais réponds-moi quand je te parle. Si tu savais quel chagrin tu me fais, tu me répondrais toujours et tu ne me regarderais pas comme ça. As-tu de la peine? Mais dis-le-moi, je te consolerai. » Il s'en allait d'un air las en murmurant, « Mais non, je t'assure que je n'ai rien. » Il n'avait pas beaucoup grandi, ayant toujours l'aspect d'un enfant, bien que les traits de sa figure fussent d'un homme. Ils étaient durs et comme inachevés, cependant. Il semblait incomplet, malvenu, ébauché seulement, et inquiétant comme un mystère. C'était un être fermé, impénétrable, en qui semblait se faire sans cesse un travail mental, actif et dangereux. Mademoiselle Sourd sentait bien tout cela, et elle ne dormait plus d'angoisse. Des terreurs affreuses l'assaillaient, et des cauchemars épouvantables. Elle s'enfermait dans sa chambre et barricadait sa porte, torturée par l'épouvante. De quoi avait-elle peur? Oh, elle n'en savait rien. Peur de tout, de la nuit, des murs, des formes que la lune projette à travers les rideaux des fenêtres, et peur de lui, surtout. Mais pourquoi? Mais qu'avait-elle à craindre? Mais le savait-elle? Elle ne pouvait plus vivre ainsi. Elle était sûre qu'un malheur la menaçait, un malheur affreux. Elle partit un matin en secret et se rendit à la ville auprès de ses parentes. Elle leur raconta la chose d'une voix haletante. Les deux femmes pensèrent qu'elle devenait folle et tâchèrent de la rassurer. Elle disait « Oh, si vous saviez comme il me regarde du matin au soir, il ne me quitte pas des yeux. Par moments, j'ai envie de crier au secours, d'appeler les voisins tant j'ai peur. Mais qu'est-ce que je leur dirais? Il ne me fait rien que de me regarder. » Les deux cousines demandaient « Est-il quelquefois brutal avec vous? Vous répond-il durement ?» Elle reprenait « Non, jamais. Il fait tout ce que je veux. Il travaille bien, il est rangé maintenant. Mais je n'y tiens plus de peur. Il a quelque chose dans la tête, j'en suis certaine, bien certaine. Oh, je ne veux plus rester toute seule avec lui comme ça, dans la campagne. » Les parentes, effarées, lui représentaient qu'on s'étonnerait, qu'on ne comprendrait pas. Et elles lui conseillèrent de taire ses craintes et ses projets, sans la dissuader cependant de venir habiter la ville, espérant par là un retour de l'héritage entier. Elles lui promirent même de l'aider à revendre sa maison et en trouver une autre auprès d'elle. Mademoiselle Source rentra dans son logis. Mais elle avait l'esprit tellement bouleversé qu'elle tressaillait au moindre bruit et que ses mains se mettaient à trembler à la plus petite émotion. Deux fois encore, elle retourna s'entendre avec ses parentes, bien résolue maintenant à ne plus rester ainsi dans sa demeure isolée. Elle découvrit enfin dans le faubourg un petit pavillon qui lui convenait et elle l'acheta en secret. La signature du contrat eut lieu un mardi matin et Mademoiselle Source occupa le reste de la journée à faire ses préparatifs de déménagement. Elle reprit à 8 heures du soir la diligence qui passait à 1 kilomètre de sa maison et elle se fit arrêter à l'endroit où le conducteur avait l'habitude de la déposer. L'homme lui cria en fouettant ses cheveux « Bonsoir, Mademoiselle Source, bonne nuit !» Elle répondit en s'éloignant « Bonsoir, Père Joseph !» Le lendemain, à 7h30 du matin, le facteur qui portait les lettres au village remarque sur le chemin de traverse, non loin de la grande route, une grande flaque de sang encore frais. Il se dit « Tiens, quelque pochard qui aura saigné du nez !» Mais il aperçut 10 pas plus loin un mouchoir de poche aussi taché de sang. Il le ramassa, le linge était fin et le piéton surpris s'approcha du fossé où il crut voir un objet étrange. Mademoiselle Source était couchée sur l'herbe du fond, la gorge ouverte d'un coup de couteau. 1 heure après, les gendarmes, le juge d'instruction et beaucoup d'autorités faisaient des suppositions autour du cadavre. Les deux parentes, appelées en témoignage, leur racontaient les craintes de la vieille fille et ses derniers projets. L'orphelin fut arrêté. Depuis la mort de celle qu'il avait adoptée, il pleurait du matin au soir, plongé, du moins en apparence, dans le plus violent des chagrins. Il prouva qu'il avait passé la soirée jusqu'à 11 heures dans un café. 10 personnes l'avaient vu, étaient restées jusqu'à son départ. Or, le cocher de la diligence déclara avoir déposé sur la route l'assassiné entre 9h30 et 10h. Le crime ne pouvait avoir eu lieu que dans le trajet de la grande route à la maison, au plus tard vers 10h. Le prévenu fut acquitté. Un testament, ancien déjà, déposé chez un notaire de Rennes, le faisait légataire universel, et il hérita. Les gens du pays, pendant longtemps, le mirent en quarantaine, le soupçonnant toujours. Sa maison, celle de la morte, était regardée comme maudite. On l'évitait dans la rue. Mais il se montra si bon enfant, si ouvert, si familier, qu'on oublia peu à peu l'horrible doute. Il était généreux, prévenant, causant avec les plus humbles de tout, tant qu'on voulait. Le notaire, maître Rameau, fut un des premiers à revenir sur son compte, séduit par sa loquacité souriante. Et il déclara un soir, dans un dîner chez le percepteur, « Mais un homme qui parle avec tant de facilité et qui est toujours de bonne humeur ne peut pas avoir un pareil crime sur la conscience. » Touchés par cet argument, les assistants réfléchirent. Ils se rappelèrent en effet les longues conversations de cet homme qui les arrêtait presque de force au coin des chemins pour leur communiquer ses idées, qui les forçait à rentrer chez lui quand il passait devant son jardin, qui avait le bon mot plus facile que le lieutenant de gendarmerie lui-même, et la gaieté si communicative que, malgré la répugnance qu'il inspirait, on ne pouvait s'empêcher de rire toujours en sa compagnie. Toutes les portes s'ouvrirent pour lui. Il est maire de sa commune aujourd'hui.